Quatrième partie, The Girl from Ipanema. Il existe toujours entre deux êtres, si unis soient-ils, un abîme, sur lequel l'amour ne peut que jeter une fragile passerelle. Hermann Hesse. Chapitre 56.
Taxi, taxi, taxi para livello à hotel.
Ambiance électrique. Bourdonnement confus, longue file d'attente pour récupérer ses bagages ou franchir la douane, l'immense aéroport Galeo baignait dans la chaleur moite et pesante d'une étuve.
Taxi, taxi, taxi para livello à hotel.
Les visages chiffonnés par la fatigue, Nicky et Sébastien dépassèrent la horde de chauffeurs de taxi qui apostrophaient les touristes à leur arrivée dans le hall et se dirigèrent vers les stands des loueurs de voitures. La brève escale prévue à Sao Paulo s'était éternisée. Pour une obscure raison d'encombrement des pistes, leur vol était reparti avec plus de 2h30 de retard pour atterrir à 11h30. « Je vais changer un peu d'argent pendant que tu t'occupes du véhicule », proposa-t-elle. Acquiesçant à cette répartition des tâches, Sébastien prit place dans la file d'attente et sortit le permis de conduire de Botsaris. Lorsque vint son tour, il hésita sur le choix du modèle. Leur enquête allait-elle limiter leur déplacement à la ville ou les mènerait-elle sur des terrains plus chaotiques ? Dans l'incertitude, il opta pour un Land Rover compact qu'il récupéra sur un parking écrasé de soleil. Dégoulinant de sueur, il enleva sa veste et s'installa au volant pendant que Nicky écoutait sur son téléphone portable le message laissé par Constance. Comme convenu, la jeune flic leur avait réservé une chambre d'hôtel dans le quartier d'Ipanema, à proximité de la plage où travaillait Flavia. Elle continuait à enquêter de son côté et leur souhaitait bonne chance. Épuisés par leur voyage, ils roulèrent en silence, suivant les panneaux autoroutiers, Zona Sul, Centro, Copacabana, qui balisaient le trajet vers le sud depuis l'Iliad au Gobernador jusqu'au centre-ville. Sébastien s'essuya le front et se frotta les yeux. Le ciel était bas, lourd, huileux, l'atmosphère polluée et étouffante brouillait sa vision et piquait ses paupières. À travers les vitres teintées, le paysage apparaissait flou, saturé de couleurs orangées, comme une image graisseuse au grain épais. Après seulement quelques kilomètres, ils se retrouvèrent encalminés dans les bouchons. Résignés, ils regardèrent par la fenêtre le panorama qui les entourait. Bordant la voie rapide, des milliers de maisons de briques s'étendaient à perte de vue. Des constructions de deux étages aux toits-terrasses parcourus de cordes à linge. Les habitations donnaient l'impression de se chevaucher, de s'enchevêtrer jusqu'à former des grappes de logements superposées dans un équilibre précaire. Labyrinthique, chaotique, gigantesque, la favela fragmentait le paysage, brisant et tordant les perspectives, craquelant l'horizon pour le faire ressembler à un collage cubiste au ton ocre, rouillé, roussi. Peu à peu, le tissu urbain se transforma. Les lotissements populaires cédèrent la place à des sites industriels. Tous les 100 mètres, de grandes affiches annonçaient la prochaine Coupe du monde de football et les Jeux olympiques de 2016. Tendue vers ces deux compétitions sportives, la ville entière semblait être en travaux. Derrière les grillages des terrains vagues, des chantiers colossaux redessinaient le paysage. Les bulldozers détruisaient les murs encore debout. Les pelleteuses retournaient la terre, les camions bennes se livraient à un balai ininterrompu. Puis la voiture traversa la forêt de gratte-ciel du quartier des affaires avant d'aborder la zone sud de la ville où était située la majorité des grands hôtels et des centres commerciaux. La capitale carioca retrouvait alors des airs attendus de cartes postales, celles d'une cidade maravillosa, baignée par la mer mais cernée par les collines et les montagnes. Au terme de son parcours, le Land Rover s'engagea sur le front de mer, longeant au ralenti la fameuse Avenida Vieira Chuto. « C'est ici !» lança Nicky, en désignant un petit immeuble à l'étonnante façade de verre, de bois et de marbre. Ils laissèrent leur 4x4 aux voituriers et pénétrèrent dans la bâtisse. À l'image du quartier, l'hôtel était chic et sophistiqué, décoré avec goût par du mobilier des années 1950 et 1960 qui donnait l'impression d'évoluer dans un épisode de Mad Men. Le lobby dégageait de bonnes ondes, briques anglaises, musique douce, parquet, canapé capitonné, bibliothèque old school. Nerveux, ils s'accoudèrent au comptoir, taillé dans un tronc d'arbre d'Amazonie, et s'enregistrèrent sous les noms de Constance Lagrange et de Nicolas Botsaris. Nicky et Sébastien ne restèrent dans la chambre que le temps de se rafraîchir et d'apercevoir, depuis leur balcon, le ressac violent des vagues qui se brisaient sur la plage. La brochure de l'hôtel affirmait que le nom d'Ipanema venait d'un dialecte amérindien signifiant « les eaux dangereuses ». Un présage troublant auquel ils décidèrent de ne pas accorder trop d'importance. C'est bien décidé à retrouver la fille d'Ipanema qu'ils quittèrent leur chambre. Dès qu'ils mirent un pied dehors, ils furent happés de nouveau par la chaleur, l'odeur des gaz d'échappement et le bruit de la circulation. Un flot incessant de joggeurs, de skaters et de cyclistes disputait le trottoir aux piétons. Le quartier concentrait un nombre important de boutiques de luxe, de salles de musculation et de cliniques de chirurgie esthétique. Nikki et Sébastien traversèrent la rue pour rejoindre la longue promenade bordée de palmiers qui longeait la plage. L'esplanade était le domaine des vendeurs ambulants qui battaient le bitume et rivalisaient d'astuces pour capter l'attention du chaland. Chargés de glacières, de bidons métalliques ou installés directement dans des cahutes, ils proposaient de l'eau de noix de coco, du maté, des pastèques, des biscuits dorés au four, des cocadas caramélisées et croustillantes, ainsi que des brochettes de bœuf dont les effluves pimentées se répandaient sur toute l'avenue. Le couple d'Américains emprunta un petit escalier maçonné qui menait à la plage. Plus chic que sa voisine Copacabana, Ipanema s'étendait le long d'une bande de 3 kilomètres de sable blanc à la réverbération brûlante et aveuglante. À l'heure du déjeuner, l'endroit était bondé. L'océan scintillait, vibrait sous la puissance de la houle qui abattait sur la plage des vagues furieuses et irisées. Nikki et Sébastien abandonnèrent l'espace privatif et le service de plage que leur hôtel mettait à la disposition des clients. Ils progressèrent avec en ligne de mire le bar où travaillait Flavia. Tous les 700 mètres, la plage était jalonnée d'une haute tour de surveillance, un puntu qui servait de point de repère et de rendez-vous aux baigneurs. Orné d'un drapeau arc-en-ciel, le puntu 8 était apparemment le lieu de rencontre des homosexuels. Nikki et Sébastien le dépassèrent et poursuivirent leur avancée. Les embruns leur parvenaient de l'océan. Au loin, ils reconnurent la silhouette des îles Cagaras qui brillaient de 1000 feux, ainsi que les montagnes jumelles des deux frères qu'ils avaient repéré sur la photo de Simon. Ils continuèrent à arpenter l'étendue de sable, se faufilant entre les joueurs de football et de beach volley. La plage était animée, elle ressemblait à un podium de défilé de lingerie ou de costume de bain. Ipanema débordait de sensualité. Une vraie tension érotique planait dans l'air. Graciles et élancées, les baigneuses arboraient leurs poitrines refaites et se déhanchaient dans des bikinis minuscules sous l'œil des surfeurs au corps sculpté, recouvert d'huile bronzante. Nikki et Sébastien arrivèrent au niveau du Ponto 9. Visiblement le coin le plus sélect de la plage, lieu de ralliement de la jeunesse dorée de Rio. « Bon, résuma Nikki, on veut retrouver une belle blonde à moitié nue qui s'appelle Flavia et qui sert des cocktails dans un bar appelé « le Cachaça », souffla Sébastien en désignant une paillote luxueuse. Ils se dirigèrent vers le débit de boissons. Le Cachaça était un beach bar design, réservé à une clientèle fortunée en paréo griffé et lunettes mouches qui dégustait des mojitos à 60 réaux en écoutant des remixes de bossa nova. Ils dévisagèrent les serveuses une à une. Elles avaient toutes le même profil, 20 ans, taille mannequin, mini-short, décolleté explosif. « Hello, my name is Bettina. May I help you ?» leur demanda l'une de ces créatures. « Nous recherchons une jeune femme, » expliqua Nikki, « une certaine Flavia. »« Flavia ? Oui, elle travaille ici, mais elle est absente aujourd'hui. »« Vous savez où elle habite ?»« Non, mais je peux me renseigner. » Elle appela l'une de ses collègues, une autre poupée Barbie, blonde, yeux clairs, sourire cristallin. « Je vous présente Christina. Elle habite dans le même quartier que Flavia. » La jeune Brésilienne les salua. Malgré sa beauté, il y avait en elle quelque chose de triste et de fragile, une sylphide gracieuse, mais dévitalisée. « Flavia n'est plus venue travailler depuis 3 jours, » leur apprit-elle. « Vous savez pourquoi ?»« Non. D'habitude, nous descendons ensemble lorsque nous avons les mêmes horaires, mais en ce moment, elle n'est plus chez elle. »« Où vit-elle ?» Elle désigna les collines d'un signe vague de la main. « Chez ses parents, à La Rocinha. » Vous avez cherché à lui téléphoner ?» « Oui, mais je n'ai eu que son répondeur. » Nikki sortit une photo de Jérémy de son portefeuille. « Vous avez déjà vu ce garçon ?» demanda-t-elle en montrant le cliché. Christina secoua la tête. « Non. Mais vous savez, avec Flavia, les garçons, ça va, ça vient. Vous pourriez nous donner son adresse ? Nous aimerions poser quelques questions à ses parents. » La jeune Brésilienne grimaça. « La Rocinha n'est pas un endroit pour les touristes. Vous ne pouvez pas vous y rendre seul. » Sébastien insista, mais se heurta au même refus. « Peut-être pouvez-vous nous y conduire alors ?» proposa Nikki. Cette perspective n'enchantait guère la serveuse. « C'est impossible, je commence à peine mon service. S'il vous plaît, Christina, nous vous dédommagerons pour votre journée. Si Flavia est votre amie, vous devez l'aider. » L'argument fit mouche. Visiblement, Christina éprouvait un début de culpabilité. « Bon, attendez. » Elle partit demander l'autorisation à celui qui devait être son patron, un jeune homme au maillot très près du corps qui buvait des caipirinhas avec une cliente de deux fois son âge. « C'est d'accord, » acquiesça-t-elle en revenant. « Vous avez une voiture ? »